Je vous propose maintenant d'écouter les déclarations de Monsieur Jean-Marie Le Pen.
Mars 1978.
Le nationalisme n'est pas périmé.
Jean-Marie Le Pen enchaîne les meetings en vue des élections législatives.
Le 20e siècle est au contraire le temps du nationalisme. Je sais bien que l'intelligentsia marxiste et cosmopolite qui gouverne la plupart des médias en France ricane à ce sujet.
Le peuple contre les élites, les vrais Français, contre les cosmopolites. Le Pen fait le choix de réactiver les vieux ressorts de la guerre civile.
Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti. J'ai un surnom, on m'appelle le Menhir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. Une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça.
Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre pourquoi, à partir de 1976, le leader de l'extrême droite change de logiciel. Il abandonne la question coloniale et se transforme en un agitateur cynique de la question sociale.
Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop.
Car Jean-Marie Le Pen entrevoit très vite que certaines mutations de la société française peuvent être exploitées à des fins nationalistes. Cette évolution de son discours est cruciale, car elle éclaire notre présent. Ayez conscience qu'au début des années 1980, Jean-Marie Le Pen met en place la matrice du Rassemblement national.
Alors aujourd'hui, Monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Quatrième épisode, le national populisme.
La parole est à Monsieur Le Pen.
Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation.
Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste?
Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs?
Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate?
Allons, enfants de la patrie!
Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, Monsieur Le Pen, vous faites peur.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Ce nouvel épisode commence en 1976, dans la France, de Valéry Giscard d'Estaing. Deux ans auparavant,
alors attention, 5,
Jean-Marie 4, Le Pen 3, et son Front 2, National
1, résultat.
Ont plafonné à 0,74% des suffrages.
Jean Manceau, peut-on maintenant avoir la déclaration de M. Le Pen?
Non, pas encore.
Pas encore.
Bon.
Le Pen est donc sous les radars. Il grenouille dans les eaux sombres de l'extrême droite. Les Français l'ont oublié. Et pourtant, en octobre 76, il ressort de son placard.
Jean-Marie Le Pen, le président du Front National d'extrême droite et qui fut candidat à l'élection présidentielle de 1974, revient à la une de l'actualité à l'occasion d'une curieuse affaire.
Une curieuse affaire, donc. Alors, de quoi s'agit-il?
Il assure être l'héritier unique d'un richissime homme d'affaires, Hubert Lambert, qui est mort il y a un mois à Saint-Cloud et qui lui laisserait la coquette somme de 3 milliards d'anciens francs. La famille d'Hubert Lambert conteste le testament en affirmant que leurs parents n'étaient plus en possession de ses facultés quand il a fait, dès Le Pen, ses héritiers.
Madame Le Pen, vous avez assisté en quelque sorte Hubert Lambert dans ses derniers instants ou du moins dans ses dernières semaines. Comment était-il?
Oh, il prenait des calmants, c'est sûr, mais il était malade comme il était d'habitude. Il était aussi lucide que d'habitude en tout cas.
3 milliards d'anciens francs, disons à peu près 20 millions d'euros. Cet héritage sulfureux va changer la donne. Mais d'abord, qui était cet Hubert Lambert?
Hubert Lambert est avant tout un riche héritier.
L'historienne Valérie Higounet.
il appartient à la cimenterie Lambert et on sait très vite au FN qu'il y a beaucoup d'argent puisqu'il arrive avec son chauffeur et sa Rolls qui le dépose devant le siège. Et là, on se dit « waouh ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un homme qui aime l'extrême droite. Et puis, il entend parler de Jean-Marie Le Pen et il se dit « pourquoi pas ?» Aller voir ce Jean-Marie Le Pen, voir si je peux faire un bout de chemin avec lui. Et Jean-Marie Le Pen, donc, va accueillir à bras grand ouverts cet Hubert Lambert.
Et alors, quels liens vont se tisser, vont se nouer entre cet Hubert Lambert et Jean-Marie Le Pen, le patron du Front National ?
Alors, du côté d'Hubert Lambert, on sent qu'il a une certaine vénération et une certaine admiration pour ce président du Front National. Donc en fait, très vite, on va dire que des relations se créent entre les deux hommes. Hubert Lambert est très flatté qu'on le regarde comme ça. Donc il va rentrer au comité central du Front National, c'est-à-dire l'instance qui est quand même assez importante, puis celle qui gère l'interne du Front National. Il va même écrire quelques articles dans une publication interne. Donc on sent que ça va bien pour lui, et on sent qu'aussi Jean-Marie Le Pen et sa femme, Pierrette, hein, qui n'est pas rien aussi dans cette histoire, le voient de plus en plus souvent, et il semblerait, en tout cas à ce qu'écrit Jean-Marie Le Pen, que l'amitié devienne de plus en plus forte entre ces deux hommes.
Je suis le légataire réellement universel et j'ai agi comme tel depuis la mort de mon ami. Je tiens à préciser d'ailleurs à ce sujet que si je n'étais pas un personnage public, je ne me prêterais pas à ces interviews.
Jean-Marie Le Pen, Philippe Lambert vous accuse presque d'avoir en quelque sorte drogué Hubert Lambert qui aurait ainsi rédigé ce fameux testament en votre faveur sous l'effet de calmants.
Monsieur, je ne répondrai pas aux accusations de Monsieur Philippe Lambert.
Dans l'introduction de votre livre consacré à l'histoire du Front National, vous citez Laurent de Saint-Affrique, qui a été longtemps le conseiller politique de Jean-Marie Le Pen, qui affirme, et vous citez, « Sans Lambert, pas de FN. Sans Le Pen, pas de Lambert. » Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, sans Le Pen, pas de Lambert, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Hubert Lambert vit en tant que militant, vit en tant que, pas professionnel de la politique, mais c'est un peu ce qu'il ressent, et donc, un de ses rêves s'accomplit.
Il est flatté.
Il est plus que flatté.
Il est séduit, honoré.
Qu'un homme comme Jean-Marie Le Pen lui accorde de l'importance. Et puis, il rentre par la grande porte au sein d'un parti d'extrême droite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sans Lambert, pas de FN, c'est assez clair aussi, puisque sans argent, pas de parti politique. À ce moment-là, donc, quand on nous décrit les bureaux politiques, ils sont même éclairés à la bougie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à payer leur facture d'électricité. Donc en fait, Hubert Lambert va mourir, et du fait qu'il fasse de Jean-Marie Le Pen son exécuteur testamentaire, c'est-à-dire qu'il donne une très grosse somme à Jean-Marie Le Pen, mais en plus qu'il lui donne, à cette époque, un bout du domaine de Montretout, qui est un grand symbole pour Jean-Marie Le Pen.
Le domaine de Montretout, c'est une propriété privée où se trouve un hôtel particulier du 19e siècle, situé à Saint-Cloud, dans l'ouest de Paris.
Cette rentrée d'argent qui est phénoménale va faire que le Front National va pouvoir survivre. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque si les militants sont très heureux, ils se disent « Waouh, le Front National enfin va pouvoir non seulement payer ses factures d'électricité, mais va pouvoir vivre », on saura très vite que Jean-Marie Le Pen, considérant Hubert Lambert comme son ami personnel, aura cette équation, j'allais dire « mon ami personnel fera que ça sera une grosse partie de ma fortune personnelle ».
Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il vous a fait l'héritier de sa fortune ?
Ça me paraît extrêmement clair, monsieur. C'est sa volonté, je la respecte. C'est dans ma philosophie de respecter la volonté des défunts. S'il en a décidé ainsi, c'est qu'il avait des raisons excellentes de le faire.
En tout cas, on peut dire très sereinement qu'il y a une vie avant Hubert Lambert et une vie après Hubert Lambert pour Jean-Marie Le Pen.
On peut le dire très tranquillement. L'héritage Lambert a complètement transformé la vie de l'homme politique, mais la vie de l'homme aussi, parce que à partir de cet héritage, Jean-Marie Le Pen va faire de la politique comme il l'entend. Adopter un comportement peut-être plus léger. Et aussi être moins inquiet, c'est clair.
Puisqu'il et plus sait... libre d'une certaine manière.
Exactement, mm-hmm. plus libre.
Une forme de liberté
c'est vrai.
Fanfaronnante.
Oui, c'est ça, et mm-hmm. on va le voir très très vite par rapport à la suite de l'histoire, tout mm-hmm. à fait. Oui.
Et quelles conséquences a cet héritage, rappelons-le, colossal.
Colossal, des millions de francs.
On parle de millions de francs. Mm-hmm. Donc quelles conséquences a cet héritage dans le comportement de l'homme politique, justement ? Est-ce qu'à l'égard des militants, on sent une rupture entre le chef et sa base ?
En tout cas, c'est eux, ils l'ont ressenti. C'est-à-dire que même on est dans un parti familial avant cet héritage, mais aussi familial parce qu'il y a peu de personnes, on va les chercher, etc. Et le tutoiement est de rigueur, par exemple. C'est pas une anecdote seulement. Et c'est vrai qu'assez rapidement, Jean-Marie Le Pen va demander à ses compagnons de route le vouvoiement. C'est-à-dire que très vite, on va vouvoyer Monsieur le Président du Front National. Donc il y a une distance par un homme qui est président, mais aussi un homme riche, tout simplement. Jean-Marie Le Pen devient un homme riche.
Le gamin breton, fils de marin pêcheur, fasciné par la bourgeoisie, soudain, quasiment du jour au lendemain, atteint une sorte de projection fantasmée sociale.
Oui, il vit dans un manoir qui a quand même été le manoir de Napoléon III. Ce n'est pas rien quand même. Hein. Donc, et on sent même aussi la façon dont il va se vêtir, donc la façon dont il va s'adresser aux personnes, etc., que cet homme a une autre posture. Ouais, c'est un homme riche. Son histoire d'antan, cet homme avec des haillons, comme il aime à le répéter, ça fait partie de la légende de Le Pen. Hein.
Quand je suis né, le sol était en terre battue.
Cet homme passe à un stade, j'allais dire, sidérant pour des observateurs de la vie politique, mais aussi pour ses compagnons de route. Faut pas l'oublier.
Vous savez, en matière testamentaire, il en est de même qu'en matière évangélique. Les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers.
Ça veut dire qu'étant le dernier héritier, vous serez le premier.
Je pense que c'est ça que ça veut dire, oui.
Hubert Lambert meurt le 27 septembre 1976. Jean-Marie Le Pen encaisse l'héritage controversé, une somme étourdissante, et quelques semaines plus tard, Le Pen refait la une des journaux.
L'attentat qui a été commis contre le domicile de Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Le Front National, c'est un mouvement d'extrême droite. Eh bien, c'est l'un des plus violents enregistrés ces dernières années. À 5h moins 10, ce matin donc, une explosion d'une violence tout à fait inouïe a détruit plusieurs appartements de la Villa Poirier, dans le 15e arrondissement de Paris, où se trouvait le domicile de M. Le Pen. La violence de l'explosion tend à donner raison à M. Le Pen lorsqu'il dit « c'était un attentat pour tuer ».
En effet, cette nuit-là, Jean-Marie Le Pen et toute sa famille, dont Marine Le Pen, 8 ans à l'époque, ont échappé à la mort. On ne connaît toujours pas aujourd'hui les commanditaires, ni le mobile, mais il est très probable que ce soit lié à cet héritage hors norme.
La coquette somme de 3 milliards d'anciens francs.
Quoi qu'il en soit, cet attentat à la bombe n'a pas coupé l'appétit politique de Jean-Marie Le Pen. Il se lance corps et âme dans la bataille des législatives de mars 1978.
Le Front National, comme tous les grands partis, a une réponse et une proposition concrète et de bon sens à tous les problèmes publics et privés que se pose une grande nation.
Écoutez bien la suite. Elle amorce la mutation du discours lepéniste.
Réduire le fléau économique et social du chômage par la réduction massive de l'immigration étrangère, comme le disent nos affiches, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop.
Alors, ce slogan 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop, c'est François Duprat qui l'invente,
l'historien Nicolas Lebourg.
Et il a entre autres en tête ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, à la fin des années 60, il y a un homme politique conservateur qui s'appelle Enoch Powell, qui est un homme politique important de son temps.
Enoch Powell, conservateur britannique opposé à l'immigration non blanche.
In this country,
In 15 or 20 years' time, the black man will have the whip hand over the white.
Enoch Powell tient un discours qu'on appelle le discours des fleuves de sang, où il dit que si l'immigration continue, il y aura des fleuves de sang en Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'observe François Duprat ? Ça a dopé le vote à l'extrême droite. Et le raisonnement de Duprat, qu'il a mis noir sur blanc en 1976, c'est on va aller sur la dénonciation sociale de l'immigration, ça va matcher comme en Angleterre sur des catégories populaires. Les partis de droite, bien évidemment, vont revenir vers notre thème pour essayer de récupérer ses électeurs. À ce moment-là, on dira, vous voyez bien qu'on n'est pas à l'extrême droite, qu'on fait partie de la grande famille des droites, vous parlez comme nous. On pourra rentrer dans une participation au pouvoir. Et puis, il a une phrase que Le Pen va répéter des dizaines de fois. L'électeur préfère toujours l'original à la copie. Ce que dit Duprat, c'est qu'une fois qu'ils nous auront copié, on pourra, nous, à ce moment-là, récupérer leur part de marché à eux.
Récapitulons. La stratégie de François Duprat, le théoricien du Front National, est perfide. Il mène une bataille culturelle, c'est-à-dire qu'il veut contraindre la droite à s'emparer des thèmes et des expressions de l'extrême droite pour ensuite rafler la mise dans les urnes. Exactement comme aujourd'hui.
Pas de fatalité.
Valérie Pécresse, 2022.
Ni au grand déclassement.
Et en 1978, Duprat et Le Pen mettent au point un discours en ce sens.
Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop.
Un discours qui fait écho aux mutations des années 70.
Jean-Marie Le Pen se rend bien compte, au début des années 70, que les luttes coloniales qui avaient permis à l'extrême droite de réexister modestement dans les années 50 et les années 60, eh bien c'est fini.
Le politiste Pascal Perrineau.
Et il va repérer assez vite deux thématiques qui vont devenir centrales dans la lutte du Front National. C'est la question de l'immigration. Une immigration qui, sous Giscard, va devenir une immigration plus visible parce que le regroupement familial est permis et donc l'immigration n'est plus simplement une immigration d'hommes seuls, très souvent très discrets dans leur foyer de travailleurs immigrés. Mais on commence à se rendre compte, l'opinion publique, à se rendre compte du fait migratoire parce que il y a les femmes, il y a les enfants, on les voit dans les commerces, on les voit dans l'école, on les voit dans la rue, etc. Donc, il se rend compte que la thématique de l'immigration est une thématique porteuse et les premières affiches vont apparaître où il fait le lien avec le chômage. C'est les fameuses affiches 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs. Hein. Donc, il y a 1 million d'immigrés en trop dans cette problématique. Et puis, il y a quelque chose qui est un fait réel dans la société française de l'époque, c'est le développement d'une délinquance. La société française était restée, par rapport à d'autres sociétés, en particulier la société américaine, une société relativement sûre. Il n'y avait pas de petite et moyenne délinquance extrêmement importante. Or, avec les débuts de la crise économique et sociale dans les années 70, se développe, oui, réellement, une petite et une moyenne délinquance qui commence à devenir, en particulier pour les milieux populaires, les gens de peu, les gens qui n'ont pas grand-chose, un phénomène un peu insupportable. On se fait voler son autoradio, son vélo, sa mobylette, on se fait casser sa voiture. Et cette petite et moyenne délinquance va devenir, là aussi, un problème qui va être mis en avant, porté à l'agenda politique par le Front National et par Jean-Marie Le Pen, en faisant là aussi l'association assez souvent avec une partie de la population immigrée. C'est la fameuse logique qui est très importante dans l'extrême droite, pas simplement dans cette famille, on la retrouve un peu partout, qui est la logique du bouc émissaire. Et on sait que dans cette tradition, le bouc émissaire de l'étranger, ou celui qui vient de contrées étrangères, est un thème qui a toujours été porteur. Donc, quelque part, ce qui va faire sa présence dans le débat, ce sont ces deux thématiques, qui sont deux thématiques sociales importantes de la société française, qui commencent à rentrer dans un processus de crise économique et sociale de longue durée.
Je revendique de la manière la plus formelle pour un homme politique ou pour n'importe quel citoyen de parler des sujets fondamentaux que sont aujourd'hui le chômage ou l'immigration.
Jean-Marie Le Pen,
1980.
En défendant les droits spécifiques des citoyens français et singulièrement des travailleurs français, je crois que j'agis dans le sens de l'intérêt de mon pays.
En histoire politique, ce type de discours est considéré comme national-populiste. Et il s'inscrit dans la veine du général Boulanger.
Debout, messieurs, le général Boulanger.
Un militaire nationaliste des années 1890. Une vieille extrême droite française.
C'est Boulanger qu'il nous faut.
Jean-Marie Le Pen et sa fille sont les héritiers du boulangisme. Avec un discours qui défend soi-disant le peuple, un peuple uniforme et fantasmé, contre les élites.
Le lepénisme, c'est un national-populisme pur.
Nicolas Lebourg.
Jean-Marie Le Pen, c'est un exemple parfait de national-populisme. Ça veut dire, pour un national-populiste, les élites, les institutions amènent la France au chaos. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sauveur qui émerge de la nation, qui va prendre le pouvoir et qui va, au-delà des élites corrompues et parasites, diriger avec le peuple, directement avec le peuple, à coup de référendum. On appelle ça la République référendaire. Jean-Marie Le Pen, c'est un national populiste pur et dur. La seule différence entre lui et tous les autres nationaux populistes, c'est que lui, il a duré.
Ce discours national populiste, c'est celui qu'adopte le Front National pour les élections législatives de 1978. Une campagne électorale qui se termine mal.
Le dernier jour de la campagne pour les législatives s'achève sur un fait dramatique. Monsieur François Duprat, candidat et membre du bureau politique du Front National, a été tué dans l'explosion de sa voiture en se rendant au collège de Caudebec-en-Caux, Seine-Maritime, où il était professeur d'histoire. Sa femme, qui était à ses côtés, a été sérieusement blessée. Jacques Thévenin.
François Duprat, 37 ans, père de deux enfants, a été tué sur le coup. Son épouse, grièvement blessée, souffre de fractures aux jambes et d'un enfoncement de la cage thoracique.
Le 18 mars 1978, François Duprat est assassiné dans un attentat. La déflagration a soufflé sa voiture et Duprat est littéralement déchiqueté. Assez vite, au sein du Front National, on sait que c'est un attentat commis par des ennemis de l'intérieur. L'extrême droite s'entretue. Alors, comment réagit Jean-Marie Le Pen à la mort de son ami, François Duprat?
Alors Jean-Marie Le Pen est extrêmement ému, ému pour la personne de Duprat, ému peut-être aussi parce qu'effectivement, dans une famille politique, c'est quand même un choc extrêmement particulier d'avoir ainsi son numéro 2 assassiné. Ému sans doute aussi, beaucoup de militants des extrêmes droites vous disent qu'à l'époque, ils se sont dit « mais si on se met à se massacrer entre nous, où on va finir ?» Il faut bien se rendre compte quand même, voilà des gens qui ont eu quoi qu'on pense de leurs engagements, mais qui viennent de passer des décennies de défaites, se sont accrochés, ont continué à se présenter aux élections, ont plongé dans la clandestinité pour un certain nombre d'entre eux dans le cadre de la guerre d'Algérie, sont allés en prison, ont continué à militer quand ils sont sortis de prison, et qui se retrouvent en se disant « et maintenant on s'assassine entre nous ». On est dans un moment où, humainement, on peut bien comprendre qu'il y a une fragilité qui se fait. Donc, je crois que les images qu'on voit de Jean-Marie Le Pen dans la presse à ce moment-là, où on voit une grande émotion, sont assez intelligibles, d'autant plus qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans un contexte d'indifférence, par contre, absolument totale du reste de la société. Il y a cette chose qui est restée en travers de la gorge de Le Pen et de tous les cadres du Front National de l'époque. À la télévision, on parle d'un incident électoral à propos de l'assassinat de François Duprat. Incident, effectivement, le terme est assez malheureux. Et c'est vrai que quand même, grosso modo, tout le monde va s'en fiche totalement. Et je crois que ça aussi, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup choqué Jean-Marie Le Pen à l'époque, de dire, bah, alors, en fait, nous, tout le monde peut nous flinguer. Quoi.
Il ne fait donc pour nous absolument aucun doute, et je crois pour personne, qu'il s'agit d'un attentat criminel.
Jean-Marie Le Pen, 1978.
Je regrette que certains aient cru pouvoir le qualifier de regrettable incident électoral. Monsieur Duprat n'était plus en campagne électorale depuis 8 jours et il est évident que l'homme qui a été visé, c'est le dirigeant politique, c'est le journaliste courageux et de talent et c'est aussi le penseur politique qu'il était.
Je rappelle que François Duprat, le penseur politique qu'il était, était négationniste, antisémite et ouvertement raciste. Enfin, sachez, pour clore ce dossier, que très régulièrement depuis la mort de Duprat, Jean-Marie Le Pen se rend sur sa tombe, au cimetière Montmartre à Paris, comme ici, en 2008.
François, tes amis, tes camarades sont fidèles au rendez-vous 30 ans après. Je te fais ici l'hommage de notre amical et fidèle souvenir.
Vous écoutez France Inter, ce matin, il est 7h.
11 mai 1981.
Et nous faisons un nouveau point complet sur l'actualité, c'est-à-dire sur l'élection de François Mitterrand avec Thierry Bourgeon.
Bonjour, Mitterrand président. Dès 20h sur France Inter et TF1, les estimations de la Sofres vous indiquaient une avance confortable. D'après la dernière statistique du ministère de l'Intérieur, qui porte sur près de 36 millions d'inscrits, François Mitterrand a obtenu 52,06% des voix contre 47,93% à Valéry Giscard d'Estaing.
Jean-Marie Le Pen n'a pas pu participer à l'élection présidentielle de 1981, car il n'a pas réussi à réunir les 500 parrainages. Cela dit, le président du Front National a bien repéré une des promesses électorales du candidat devenu président, François Mitterrand.
Ah, comme j'aime ceux qui me contestent.
Le leader socialiste avait annoncé qu'une fois élu, toutes les opinions politiques pourraient s'exprimer dans les médias.
Ah, cette diversité, ce pluralisme comme j'y tiens.
Pas de censure. Et en 1982, Jean-Marie Le Pen a donc écrit au président Mitterrand. La suite nous est racontée par Annick Beauchamp, journaliste à TF1.
Monsieur Le Pen connaît bien le président, il lui écrit fréquemment. Et d'ailleurs, ben oui, vous allez voir pourquoi je dis ça. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas content de la télévision. Et si vous n'êtes pas content de la télévision, je parle de TF1 pour l'instant, bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas parlé du congrès du Front National qui se s'est déroulé le 7 et 8 mai dernier. Bien ça.
Oui.
Non. Alors, comme vous n'étiez pas content, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez pris votre plus belle plume et vous avez écrit au président Mitterrand pour vous plaindre du non-respect du pluralisme sur les antennes de la télévision. Oui. Alors, monsieur Le Pen, est-ce que lorsqu'on croit à une télévision indépendante, on demande au président de vous donner un petit coup de pouce ?
Et c'est pas ça. Oui, quand la télévision dépend entièrement de l'État, oui.
Écoutez, comment vous pouvez nous dire ça, nous,
oui, écoutez, c'est vrai, on le sait, ben, que vous soyez des journalistes libres, vous l'êtes quand même dans des structures qui dépendent de l'État. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de vie politique en dehors de la télévision.
Ben, il prend au mot ce qu'a dit le candidat François Mitterrand, qu'il était pour le pluralisme politique et que dorénavant, toutes les formations, on devait en parler dans les médias, et donc il joue là-dessus.
Nona Mayer est politiste.
Et en fait, il était furieux parce qu'on n'avait pas parlé de leur congrès. Hein, c'est très simple, c'est très concret. Personne dans les médias n'en avait parlé. Donc, ce genre d'incident ne doit pas se reproduire.
Deux choses. Primo, à l'époque, personne n'invitait Jean-Marie Le Pen à son micro. Pas plus Radio France que TF1, RTL ou Europe 1. Secondo, au nom d'une promesse électorale, celle du pluralisme politique, François Mitterrand exige des antennes publiques qu'elles reçoivent Jean-Marie Le Pen. Et en septembre 1982...
Mesdames, messieurs, la cour ! L'avocat de la défense, Louis Srego ! Le procureur général de la République, Pierre Desproges ! Le président Claude Villers !
Nous aussi, à France Inter, nous accueillons le président du Front National.
Le ministère public contre Jean-Marie Le Pen.
Le tribunal des flagrants délires, émission culte de France Inter. Ayez conscience qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen ne pèse rien dans les urnes. Il fait à peine 1% des suffrages, donc il ne fait pas peur. Par ailleurs, il est outrancier et il affiche la préférence nationale, mais il n'a pas encore véritablement dérapé. Il fait très attention aux mots qu'il emploie.
Accusé, levez-vous.
Et il vient sur Inter faire le spectacle.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Jean-Marie Le Pen, 53 ans. Qualités diverses.
Votre profession.
Je fais des disques d'histoire. du matériel géographique. Et je fais aussi, j'ai un hobby, je fais un peu de politique.
Jean-Marie Le Pen, vous êtes inculpé de reconstitution de ligue dissoute, car vous propagez des idées totalitaires, staliniennes même, dirons-nous.
Il n'a rien compris.
Vous êtes également inculpé de dilapidation de fonds publics, puisque les expulsions d'immigrés que vous préconisez pour venir à bout du chômage risquent en fait de coûter fort cher à la France, et que l'on ne voit pas tellement qui pourra remplacer ces émigrés pour travailler, sauf bien sûr si quelques jeunes gens musclés et habiles à manier le manche de pioche peuvent aller creuser dans les tranchées les canalisations du gaz, de l'électricité ou du téléphone.
Si on creuse les canalisations, il n'y a plus de gaz.
L'émission dure 1h22 minutes. Desproges et Louis Rego sont impeccables, hilarants et à charge, et Jean-Marie Le Pen très bon dans son registre.
Vous pouvez vous asseoir, monsieur Le Pen. Est-ce que vous reconnaissez les faits ?
Non, monsieur le président.
Je n'en doutais pas.
Cette présence médiatique, à la télé et à la radio, du président du Front National, trouve des échos dès 1983.
Beaucoup de commentaires après la signature de l'accord UDF-RPR Front National pour une liste unique au second tour des élections municipales à Dreux dimanche prochain. Dans l'opposition, Simone Veil affirme que si elle devait voter à Dreux, elle s'abstiendrait. Bernard Stasi, président délégué du CDS et député UDF, déclare que l'opposition perdrait son âme et sans doute la confiance de certains de ses partisans si elle donnait le sentiment d'apporter sa caution à des thèses contraires aux principes humanistes sur lesquels elle fonde son combat politique.
Il va faire vraiment irruption dans la vie politique française en 83. C'est des élections partielles à Dreux. Et là, il va y avoir une alliance historique entre la droite classique, le RPR, et le Front National. Et ça va faire entrer une dizaine de frontistes au conseil municipal de la ville de Dreux, malgré l'opposition de toute la gauche, et simplement de deux personnes à droite, dont Simone Veil, évidemment. Donc là, c'est le premier moment où on commence à se rendre compte qu'il existe. À gauche, c'est très net, on n'en veut pas. À droite, on se pose des questions.
Je ne vois pas comment un parti, en tant que tel, et ses membres à titre personnel,
Simone Veil,
pourrait encore prétendre, de façon crédible, mener le combat pour les droits de l'homme, se déclarer porteur de certains idéaux touchant au respect de la personne humaine, dès lors qu'ils auraient accepté de conclure des alliances, même locales, avec une formation qui se fait ouvertement le porte-parole de thèmes racistes et xénophobes, attisant ainsi des sentiments de haine au sein de la population résidant sur notre sol.
Alors, il n'est pas question d'affirmer ici que les médias auraient fabriqué Jean-Marie Le Pen. C'est bien plus complexe et on va y revenir. Avec cette percée électorale à Dreux et en prévision des élections européennes de 1984, Jean-Marie Le Pen est ensuite invité à L'Heure de Vérité. Une émission qui va frapper les esprits. Une émission phare présenté par un journaliste d'une grande élégance.
Bonsoir.
François-Henri de Virieux.
Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu, monsieur Le Pen, un marginal du jeu politique. Certes, vous êtes président d'une formation autorisée par le ministère de l'Intérieur, le Front National, mais c'est une formation qui n'a jamais réussi à faire entrer le moindre représentant au Parlement. Les choses ont changé pour vous depuis 1983. Vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait. Et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Alors, qui êtes-vous vraiment, monsieur Le Pen ? Que voulez-vous ? Est-ce que vous êtes le même homme que celui qui, il y a 28 ans, était élu député poujadiste, était partisan de l'Algérie française ? Est-ce que vous avez aujourd'hui les mêmes soutiens, les mêmes amis, les mêmes idées ? Ou bien est-ce que vous avez changé au fil des ans ? Vous connaissez la règle de notre mission. Ce n'est pas une tribune, c'est une émission de questions sans complaisance et de réponses sans discours.
C'est déjà être quelqu'un important dans la vie politique française si on passe à L'Heure de Vérité.
Nicolas Lebourg,
Jean-Marie Le Pen, non seulement va pouvoir y participer, mais il va savoir y faire un fort effet. Entre autres, à un moment, il va se lever et demander une minute de silence pour les victimes du communisme à travers le monde. Alors bien évidemment, quand on raconte ça en 2022-2023, c'est quelque chose qui peut paraître complètement surfait. On est en contexte, l'Union soviétique existe, il y a beaucoup de gens à droite qui à ce moment-là ont une vraie satisfaction à voir un homme politique tenir un discours anticommuniste aussi radical.
Et je voudrais, moi aussi, me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, pour, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag.
Moi je suis journaliste et je continue à poser mes questions si vous le voulez bien.
Et résultat, dans les résultats aux élections européennes en 1984, dans les zones les plus aisées, comme Neuilly-sur-Seine, pour prendre une ville que tout le monde connaît, Jean-Marie Le Pen fait 17% avec sa liste, alors qu'il fait 10% à l'échelle nationale. Il y a toute une partie de l'ancien électorat Jacques Chirac, de l'électorat conservateur bourgeois, qui est très heureuse de voir un champion anticommuniste.
Est-ce que vous diriez, en tant qu'historien, que cette émission de 84, elle est quand même une petite rupture, dans le sens où il entre quasiment dans les foyers français, tout d'un coup, Jean-Marie Le Pen, avec cette émission, ou qui est très regardée hein, à l'époque, et qui, en plus, avec cette espèce de spectacle qu'il met en place, il doit imprimer sans doute la rétine de beaucoup de Français en 84.
Il faut bien se rendre compte que quand Jean-Marie Le Pen fait cette émission en 1984, il y a 3 chaînes de télévision en France. L'impact est extraordinaire. Ça veut dire que d'un coup d'un seul, dans tous les foyers français, il y a quelqu'un qui tient un discours anticommuniste virulent, qui assume avoir combattu pour l'Algérie française. Bref, quelqu'un qui porte des idées de toute une partie de l'opinion, qui a l'impression qu'en fait, effectivement, on n'écoute pas, qu'elle n'existe pas médiatiquement sur ces 3 grandes chaînes-là, d'un coup d'un seul, ils s'y reconnaissent, ils s'y projettent. Et là, Le Pen, il met à jour une France qui existe, qui est une France, effectivement, qui ne veut pas d'immigration, qui est anticommuniste, qui est la France du Front National. Il met le pied dans le plat, il la met devant la scène.
Sachez qu'après cette émission, pendant plusieurs semaines, le Front National a enregistré plusieurs centaines d'adhésions par jour. Et arrivent ensuite les élections européennes de 1984.
Le journal de Jérôme Bonaldi. Bonjour Jérôme.
Bonjour. 11% des voix pour la liste de Jean-Marie Le Pen. À peine plus, 11,3% pour la liste communiste. Ce sont les 2 surprises de ces élections européennes.
C'est Simone Veil qui est la candidate qui représente la droite et elle apparaît aux yeux de beaucoup comme trop modérée face aux socialo-communistes.
Nona Mayer.
Et il y a ce jeune Le Pen, on ne sait pas encore très bien qui c'est, mais il veut défendre la patrie française. Et il faut du temps d'abord pour qu'il commence à être vu. Il va utiliser les médias très habilement, pas tout de suite. Sa victoire médiatique ne précède pas, c'est plus complexe. Les médias ne suffisent pas à créer Jean-Marie Le Pen. Et puis 84, c'est le premier succès national à grande échelle, puisqu'il frôle les 11% aux élections européennes.
11,04% des voix pour la liste de Jean-Marie Le Pen, c'est le tout dernier chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est la première grande surprise de ces élections européennes, du jamais vu depuis le poujadisme en 1956.
Jamais l'extrême droite française n'avait atteint de tel niveau. On parlait de Jean-Louis Tixier-Vignancourt en 1965, c'était 5%.
Pascal Perrineau.
Là, on est à plus du double. Donc, il y a là, en termes de niveau, une force, le Front National, qui devient une force nationale. Et ça, c'est important. Deuxièmement, il faut dire qu'en 84, on est quelques années après l'arrivée de la gauche au pouvoir, de la fameuse alternance de 1981, et qu'une partie des électeurs de droite, parfois appartenant à des milieux plutôt de la petite bourgeoisie, est en colère. Elle ne se fait pas à cette gauche qui est au pouvoir, qu'elle estime plus ou moins comme illégitime à occuper toutes ses fonctions. Il y a un anti-mitterrandisme solide à l'époque dans ces milieux. Et le Front National va arriver à capter une partie de cette radicalisation d'un électorat de droite qui n'est pas forcément du tout un électorat de la bourgeoisie, c'est un électorat plutôt de la petite bourgeoisie en colère, beaucoup par exemple de professions indépendantes, de travailleurs du commerce et de l'industrie, d'artisans, de commerçants, ce qu'on appelle parfois avec un peu de mépris et c'est idiot, le monde de la boutique. Hein. Le monde de l'atelier, c'est-à-dire les ouvriers et les couches populaires, ne sont pas encore massivement là. Ça viendra dans une deuxième période, mais on voit bien que quelque chose se passe sur certains terrains populaires. Par exemple, à l'époque, on s'aperçoit que, si l'on prend la géographie parisienne, c'est plutôt dans les quartiers nord de Paris, le 19e, le 20e, que le Front National fait ses bons résultats. C'est pas du tout dans le 16e arrondissement, qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois. Donc on s'aperçoit que oui, le Front National commence à rencontrer un peu le peuple. C'est le début, le frémissement du national-populisme.
Fort de ces 11% du printemps, le Front National organise à la fin de l'été un grand rassemblement.
De la politique en ce dimanche, les militants du Front National se sont retrouvés aujourd'hui à Paris où se poursuivait la fête bleu-blanc-rouge organisée par leur mouvement. Jean-Marie Le Pen a fait à cette occasion son discours de rentrée politique.
Et dans ce discours, Jean-Marie Le Pen martèle à plusieurs reprises « Nous sommes le peuple ». Que pense la sémiologue Cécile Alduit de cette formule rhétorique ?
Alors, il y a plusieurs fils qui sont tissés dans ce mot lorsqu'il est prononcé par Jean-Marie Le Pen et plus tard par sa fille. Le peuple, dans ses discours, c'est une sorte d'appeau pour attirer les électeurs. Il aura une affiche « Le Pen, le peuple ». C'est cette idée, premièrement, que le peuple est uniforme, que c'est le peuple qui est la source de sa propre légitimité et de la légitimité du président et des institutions, et qu'il y a un lien direct entre le peuple et le chef, et entre le peuple et le Front National. Ce peuple, il est en apparence défini dans un sens républicain, tel qu'il apparaît dans la Constitution, la légitimité vient du peuple, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. En fait, quand on lit en filigrane, c'est un peuple qui est défini ethniquement, par les origines, par un déterminisme de l'ADN et des origines familiales et nationales. Et donc, c'est le folk allemand, plus que le peuple de 1789. Chez Jean-Marie Le Pen, le peuple est défini comme une nation de chair. C'est une expression qu'il utilise. Et c'est vraiment cette définition biologique du sang qui prévaut. Après, il y a une connotation sociale qui va s'y ajouter, sur laquelle il va jouer. Et c'est la dimension populiste qui s'ouvre à partir des années 80-90, où il s'agit de récupérer un électorat ouvrier, d'employés, plus populaire, les victimes de la désindustrialisation, qui ne se sentent plus représentées par les élites politiques, et de mettre en avant une dimension sociale qui est purement de discours. C'est-à-dire que les programmes aux élections, on peut les lire, les comparer, il n'y a pas une seule mesure sociale. Mais le discours fait vibrer une fibre sociale, et dans le peuple, on sent le populaire, alors que dans l'idéologie, c'est un peuple défini exclusivement comme les Français, entre guillemets, de souche.
Si vous voulez mieux connaître mes idées, vous pouvez lire mon livre « Les Français d'abord ».
1984. La sémantique n'est pas neutre. On s'en sert comme d'une arme dans un combat où les mots tuent parfois plus sûrement que les balles.
Dans ce même discours, Le Pen affirme que le chômage est un cancer social. Qu'est-ce qu'il faut entendre ?
Alors, dans cette image-là du cancer social, il faut distinguer la métaphore, qu'est-ce qu'elle veut dire de l'imaginaire de Jean-Marie Le Pen, et le contexte politique, quelle est l'accusation derrière. La métaphore, donc médicale, biologique, elle nous permet de mettre le doigt sur la conception organique de la société qu'a Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite en général. Cette idée que la société n'est pas l'assemblage d'individus qui font ensemble un contrat social pour vivre ensemble, apporter à chacun la liberté, la sécurité et une forme d'égalité. Mais au contraire, c'est vraiment un corps organique, un corps politique naturel, en tout cas c'est l'idée, qui se définit par la filiation. On appartient à ce corps parce que nos ancêtres y appartenaient. Et on doit aux ancêtres à la fois le respect et la persévérance dans les habitus, les mœurs, les lois. Donc c'est un conservatisme idéologique viscéral. Et cet organicisme fait qu'on ne peut pas accueillir de corps étrangers, ni d'idéologie nouvelle, ni s'adapter au changement, puisqu'il faut conserver l'immunité de ce corps contre les corps étrangers. Donc, l'idée du cancer social, là, c'est le chômage, mais bien sûr, l'immigration est aussi une attaque au corps et à son intégrité physique et à sa pureté, en fait. Au-delà de ça, il y a cette idée que la santé du corps politique, c'est sa pureté originelle. Et après, il y a le contexte de ce discours et le fait qu'on est dans cette vague d'augmentation exponentielle du chômage avec aucune mesure qui ne marche. Ça devient vraiment le grand sujet de préoccupation des Français sous un gouvernement socialiste. Et Jean-Marie Le Pen, fidèle à son anti-socialisme, son anti-communisme, attribue à ce qu'il appelle la socialisation de la société, c'est-à-dire qui est un programme socialiste, tout simplement. Il attribue à cela le délitement du corps social. Et donc, on revient sur nos pattes, en fait, parce que cet organicisme, politiquement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de réguler le marché, par exemple, de l'emploi, on n'a pas besoin de faire des droits sociaux, parce qu'il y a une autorégulation, de même que dans le corps, le système immunitaire se charge de défendre contre les maladies. Donc finalement, c'est un État minimaliste sur les droits sociaux et maximaliste sur le régalien, c'est-à-dire la défense contre les corps étrangers.
Antenne 2, 1984.
Un petit restaurant dans le quartier populaire des Batignolles à Paris. Une clientèle d'habitués, madame fait le service, monsieur la cuisine. Ils sont propriétaires et ils travaillent dur. Lui a 45 ans, il vient de rejoindre le Front National et il explique pourquoi, sans complexe.
Non monsieur, ça ne me gêne pas du tout d'appartenir à l'extrême droite.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut tout pour faire un monde.
Monsieur Vesselin est l'un des 20 000 adhérents que le Front National revendique aujourd'hui. Il fait partie des 11% d'électeurs de Jean-Marie Le Pen. Il n'est pas, à proprement parler, un cas particulier.
Au mi-temps des années 1980, le Front National voit ses troupes s'étoffer. De nouveaux militants entrent au parti, mais il faut les former à la bataille culturelle.
On est dans un parti qui a une visibilité politique. Et là, on se rend bien compte que beaucoup de personnes, entre autres, qui vont se présenter aux élections, donc qui vont représenter un Front National qui est de droite, entre guillemets, hein, qui n'est pas d'extrême droite, comme il dit si bien, qu'on ne peut pas faire donc ce qu'ils disent des impairs de langage.
Valérie Higounet.
Il y a énormément de fascicules qui ont été distribués à ces militants, hein, ou des cours, etc. Par exemple, donc pour la formation politique, hein, qui a été montée entre autres par Bruno Maigret, donc qui a un institut de formation nationale, on leur apprend à parler. Le FN marque en quelques lignes, on ne peut pas dire quand on est militant, quand on se présente à des élections pour le Front National, il faut jeter les bougnules à la mer. Ça, c'est la phrase quasiment stricto sensu qui est dans le manuel, mais il faut renvoyer les immigrés chez eux, par exemple. Donc, c'est des remplacements de mots par d'autres. Il faut être, non pas neutre, on va dire, mais savoir manier le langage de cette soi-disant droite. Donc il ne faut pas du tout faire de dérapage. On ne peut pas dire, quand on est un parti comme le Front National, donc déjà on ne dit pas qu'on est d'extrême droite, et on ne peut pas s'affilier à certaines idéologies, comme le nazisme, avec des mots-clés, j'allais dire. On ne peut pas aimer Hitler ou des choses comme ça, parce qu'on sait que c'est terminé pour eux.
Document interne au Front National, 1985.
Un document fourni par Valérie Higounet.
Sans être une formation secrète, nous devons être extrêmement discrets et prudents et ne jamais ébruiter sur les places publiques nos mécanismes de fonctionnement, bons ou mauvais. Nous sommes environnés de forces hostiles. ne jamais perdre de vue que celui qui n'est pas du front risque d'être contre, fût-il votre frère. En famille ou entre amis, en public, l'on ne doit évoquer que ce que notre propagande laisse apparaître de la partie émergée de l'iceberg. On n'impose pas aux masses extérieures au mouvement n'importe quelles idées. Il faut toujours partir d'un substrat mental préexistant et faire l'amalgame avec nos propres idées-forces.
Et en 1985, la classe politique française se déchire sur la responsabilité de l'éclosion du Front National.
Qu'on le veuille ou non, M. Jean-Marie Le Pen est au centre du débat politique français. À droite comme à gauche, on essaie de le rejeter dans le camp de l'autre. Pour M. Jean-François Poncet, l'ancien ministre des Affaires étrangères de M. Giscard d'Estaing, l'extrême droite et M. Le Pen sont apparus après mai 81. D'une certaine façon, donc, M. Jean-Marie Le Pen fait partie de la progéniture de François Mitterrand, dit l'ancien ministre.
Alors se pose maintenant évidemment la question de la réaction de François Mitterrand à ce personnage qui naît sur la scène médiatique. Qu'est-ce qu'on peut en dire en 2023, Nicolas Lebourg ? Est-ce que, en effet, François Mitterrand a une stratégie à l'égard de Jean-Marie Le Pen au début des années 80 ?
Il est évident que François Mitterrand sait que Jean-Marie Le Pen affaiblit les droites et que ça l'avantage. En même temps, il est bien évident que réduire la proportionnelle à un jeu machiavélique de Mitterrand est un peu court. C'était une revendication historique des gauches également, donc c'est un peu plus compliqué. Disons que le stratège politique Mitterrand n'était pas en désaccord avec l'homme de conviction Mitterrand dans le fait d'utiliser Jean-Marie Le Pen.
Pour M. Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est le contraire, exactement. Le phénomène Le Pen est le produit de la droite. Il est le fils de messieurs Chirac, Barre et Giscard d'Estaing.
Et alors, la droite, comment est-ce que le RPR gère cet énergumène politique qui est en train de naître sur la scène médiatique et politique ?
Il va y avoir deux temps de la part de Jacques Chirac et du RPR. Au début des années 80, il y a la volonté de considérer que le Front National, en fait, c'est son aile droite, un peu turbulente, un peu agitée, et qu'on peut s'entendre avec elle, on peut pactiser localement. Il y a eu déjà des militants d'extrême droite aussi au municipal de 77. Il y en a donc en 82, 83, il y a des accords sporadiques faits comme ça. Et puis, avec la montée en gamme qui se fait, avec les élections européennes, Jacques Chirac change complètement d'avis. Et on va arriver à la situation de 1986, où en fait Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen vont coopérer pour créer le cordon sanitaire. Jean-Marie Le Pen ne veut pas que ses élus, que ses militants soient aspirés par le RPR, comme si le Front National était une espèce de mouvement de jeunesse un peu agité d'une droite conservatrice notable où ensuite on irait en vieillissant. Et Jacques Chirac, lui, ne veut pas être concurrencé, bien évidemment, risquer de perdre de précieux points pour gagner la prochaine présidentielle. Donc, il y a un accord entre gentlemen à partir de 86. Le Front National et le RPR doivent se faire la guerre parce que ça arrange Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, plus le fait qu'idéologiquement, Jacques Chirac avait parfois eu des mots, en particulier à la fin des années 70, assez durs contre l'immigration, pas très loin de ceux que pouvait dire le Front National. Mais Jacques Chirac avait quand même des convictions contre la xénophobie, contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui étaient des convictions manifestement assez sincères et qu'il a des inquiétudes de ce que peut porter le Front National autour de ça.
En conclusion de ce quatrième épisode, il faut dire qu'en quelques années, Jean-Marie Le Pen s'est taillé une place de choix dans le paysage politique français. Mais il n'est pas qu'une création médiatique. Son discours xénophobe et populiste des années 80 a rencontré les aspirations d'une partie de la société française. Si bien qu'aux élections législatives de 1986, après la réforme du mode de scrutin voulu par François Mitterrand, la proportionnelle, donc, recèle une surprise amère.
L'autre événement de la soirée, c'est l'entrée spectaculaire du Front National qui obtiendrait 33 sièges. Jean-Marie Le Pen aurait ce soir, grâce à la proportionnelle, aura son écharpe tricolore.
Avec 35 élus pour le Front National au Palais Bourbon, le député Le Pen prend son envol. Et c'est l'horizon du prochain épisode. «
Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie-Française, et Marion Bierry. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, le vol noir du corbeau. Le Pen, l'obsession nationale, est un podcast original de France Inter.